c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulomiers-Chamy et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Et nous allons la visite des...
Deux jeunes stagiaires.
La visite de deux jeunes stagiaires. Mais ton prénom ?
Lucas.
Et...
Emma.
D'accord.
Et l'Amérique latine souhaite une très bonne année 2024 à tous nos auditeurs qui nous suivent depuis presque 20 ans, n'est-ce pas? Et au sommaire de cette semaine, nous allons parler d'un entretien accordé par M. Jean-Jacques Kurlianski, qui est un expert de l'Amérique latine.
Au journal Le Monde.
Et, oui, dans le journal Le Monde, et qui fait partie de la fondation Jean Jaurès. Nous allons parler de l'Argentine. C'est presque à la mode, mais mauvaise mode, apparemment. Et si le temps nous permet, nous allons parler de regarder des étoiles. Je vais le dire comme ça, mais on va découvrir après. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de cet entretien accordé à Journal Le Monde par M. Kurlianski.
Oui, 200 ans après le discours du président Monroe, l'historien retrace la façon dont s'est affirmé l'impérialisme états-unien sur le sud du continent. Alors voici quelques extraits. Le 2 décembre 1823, le président des États-Unis, James Monroe, prononcer un discours condamnant toute interférence européenne dans les affaires du continent américain, resté célèbre sous le nom de doctrine Monroe. En 1904, Theodore Roosevelt ajoutait une interprétation expansionniste de cette doctrine, ouvrant la vraie voie à l'ingérence des États-Unis en Amérique latine. Les États-Unis n'étaient pas la puissance qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils redoutaient l'ingérence des grands empires européens, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne. Pour l'ensemble du continent américain, l'Europe représentait une menace militaire. La doctrine Monroe, c'était l'Amérique aux Américains et pas aux Européens. La politique impérialiste de Washington dans la région ne commence pas avec la doctrine Monroe en 1823, comme on le dit aujourd'hui de manière anachronique, mais plus de 20 ans plus tard, lors de la guerre contre le Mexique. Dans un célèbre éditorial publié en 1845, le journaliste John Sullivan avait souligné la destinée manifeste des États-Unis de s'étendre sur le continent, avec des justificatifs xénophobes à la limite du racisme. Puisque les Mexicains sont incapables de développer les terres qu'ils occupent, c'est à nous de le faire. La guerre américano-mexicaine a mis en évidence l'inégalité des rapports de force sur laquelle les États-Unis vont s'appuyer pour mener une forme de colonisation annexionniste dans le cas du Mexique, impérialiste dans le reste du continent.
Vous êtes venu à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, en cette nouvelle année 2024. Et nous allons continuer à finir
la suite de l'entretien de M.
Kurlianski.
À la fin du 19e siècle, les États-Unis ont essayé de vendre l'idée du panaméricanisme, lier le Nord et le Sud sans jamais aboutir. L'OEA, qui est l'Organisation des États d'Amérique, est créée et un volet sécuritaire est mis en place avec l'École des Amériques. C'est là que sont formés des milliers de militaires de la région latino-américaine qui ont ensuite appliqué sur le continent la doctrine de sécurité nationale, c'est-à-dire des coups d'État des forces armées pour empêcher l'arrivée au pouvoir de gouvernements diabolisés en communistes et d'alliés potentiels de l'URSS. Tout cela n'empêche pas la poursuite d'un bilatéralisme avec des interventions musclées à chaque fois qu'un gouvernement progressif accède au pouvoir, soit par des interventions directes des États-Unis, Guatemala en 1954, Panama en 1989, soit par le biais de l'OEA, République dominicaine en 1965, soit en encourageant le recours à la violence de l'armée au Chili en 1973. L'OEA est une invention des États-Unis qui la finance aux trois quarts. Où est son siège ? À Washington. L'OEA a décidé l'exclusion de Cuba en 1962. L'OEA a parrainé l'intervention militaire en République dominicaine en 1965. Au final, l'agenda de l'OEA est celui des États-Unis. L'OEA est l'un des instruments de leur diplomatie d'influence. Les États-Unis ont vocation à donner le « là » en matière de droit, de liberté et de démocratie pour l'Amérique latine et au-delà. La vraie structure collective régionale, c'est la communauté d'États latino-américains et des Caraïbes, la CELAC, mais il a fallu attendre 2010 pour qu'elle soit créée.
Oui, là c'est donc un long entretien accordé par Jean-Jacques Kurlianski au journal Le Monde, et cet article finit par ce qui avait indiqué Lula, le président brésilien, il nous faut oublier nos différences idéologiques pour construire quelque chose de pérenne reflétant nos préoccupations. Voilà donc ce qu'on peut dire de ces articles et ce qui avait indiqué aussi Lula, le nouveau président du Brésil, qui vient juste d'accomplir un an au pouvoir. Musique de l'Amérique latine, nous ne l'oublions pas, n'est-ce pas, Béatrice?
Oui, ça va de soi.
Alors, nous allons parler maintenant d'un pays qui est, qui a bousculé à l'extrême droite avec un président qui commence déjà à faire des dégâts, entre guillemets, par rapport à la société argentine et surtout les plus démunis. Donc, nous allons parler des...
Oui, il s'agit du nouveau président ultra-libéral, Javier Milei, répète comme une formule sacrée que l'Argentine était le plus riche pays du monde au début du XXe siècle, mais que, par la faute de l'interventionnisme d'État, elle n'atteint aujourd'hui que la 140e place. L'ultralibéral a promis de rendre sa grandeur au pays et d'en faire, dans 35 ans, à nouveau la première puissance mondiale. Pour l'historien Ezequiel Adamowski, professeur à l'université de San Martín à Buenos Aires, l'explication de la décadence de l'économie argentine est plus à chercher du côté de politiques néolibérales appliquées à partir de la dictature de 1976 que du gouvernement de Juan Perón. Extrait de l'entretien accordé au journal Le Monde. L'Argentine n'a jamais été le pays le plus riche du monde. Il est vrai qu'en 1885 et 1913, en plein boom des exportations agricoles, l'Argentine était devenue le grenier du monde. Sa croissance était supérieure à celle des États-Unis. Il s'agissait d'un pays riche, mais il n'était nullement une puissance, dans le sens où il ne tenait aucun rôle important dans le concert des nations. C'est donc un pays qui paraissait riche, de par des circonstances exceptionnelles, mais qui ne l'était pas vraiment. C'est en 1975 que l'économie argentine souffre une chute abrupte et perd du terrain. Javier Milei et les libéraux veulent faire de l'Argentine l'exemple de l'inefficacité de l'intervention de l'État dans la régulation de l'économie. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le marché, comme seul régulateur de l'économie, a été un échec partout.
Oui, merci Béatrix. Nous allons faire une pause musicale. Au rythme du tango, nous analysons un peu ce qui a été publié ici en France au sujet de ce pays, l'Argentine, un grand pays d'ailleurs, mais qui a bousculé à l'extrême droite, du côté politique. Et au sujet de ça, il faut ajouter que l'ironie, c'est que les pays utopiques qu'évoque Javier Milei d'avant 1930 n'avaient ni régulation économique, ni banque centrale, puisqu'elle a été créée en Argentine qu'en 1935, ni contrôle des changes, ni taxes aux exportations. Toute chose qu'il conspue aujourd'hui, et pourtant ce modèle signifie un revers, non seulement en matière macroéconomique, mais également de bien-être de la population. Voilà ce qui a indiqué donc ces... chercheur Ezequiel Adamowski. Et toujours sur l'Argentine, nous avons aussi une tribune parue dans le journal Le Monde, toujours Le Monde presque, sur Miguel Benazayac, qui est un philosophe et psychanalyste franco-argentin, argentin, et de Gilles Lumeau. Béatrice va nous livrer quelques extraits de ces articles, de cette tribune.
Oui, le futur disparaît de la politique avec Javier Milei. Le vote des Argentins pour ce populiste ultralibéral est un gigantesque lâcher-prise, un appétit de jouissance barbare qui récuse tout projet et relève du refus de prendre en compte le réel pour le transformer. Pourquoi un peuple, les Argentins, porte-t-il à la présidence du pays un homme, Javier Milei, qui promet de faire pire que tous ceux qui l'ont précédé au pouvoir? Pour y répondre, il faut faire un détour par l'histoire du pays, qui, à près de 80 ans, a vu alterner le péronisme, les dictatures militaires et la social-démocratie, cumulant 40 ans pour le premier, 24 ans pour les seconds et 14 pour le troisième, pour la troisième. Le péronisme est difficile à résumer. C'est une sorte de bonapartisme sud-américain mélangeant promesses de justice sociale, protectionnisme économique et fierté nationale. Au gré des tendances, de l'extrême droite à l'extrême gauche, il a gouverné en social-démocratie ou en ultra-libéralisme. Dans tous les cas, avec un clientélisme et un niveau de corruption qui font référence. L'élection du Milei est l'expression massive d'un rejet du péronisme. Depuis le retour à la démocratie en 1983, aucun gouvernement n'avait osé amoindrir la condamnation de la dictature. Milei veut stopper le travail de mémoire et de justice et inverser les accusations. Il y a aussi la prime au machisme, avec l'annonce de la suppression du ministère des Femmes. Le rejet du péronisme ne suffit pas à expliquer l'arrivée au pouvoir d'un homme sans autre projet que de détruire l'organisation politique de l'État. Sa présidence proclame la fin de la promesse positive, la fin de la politique construite dans les contradictions plutôt que dans la guerre.
Oui, on pourrait résumer cet article donc, de ce philosophe franco-argentin et du journaliste Gilles Lunot par ce qu'indiquait. Il y a des façons de réunir les gens positivement sur un projet auquel on peut opposer un autre, ou négativement, en unissant sur la haine des autres. Tango de Buenos Aires. C'est malheureux que l'Argentine, je viens de le dire, c'est un grand pays qui a choisi un président d'extrême droite, Javier Milei. Mais nous allons passer à des sujets plus positifs, on peut dire. Oui. Il y a, pour regarder les étoiles, au Chili, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, le plus grand télescope du monde qui sort de Terre. L'Extremely Large Telescope, télescope extrêmement grand, dans le désert d'Atacama, au Chili, sera le plus grand œil braqué sur le ciel. Sa construction cumule les défis technologiques pour une mise en œuvre en service en 2028. Un paysage de ciel et de pierre, de turquoise et d'ocre. Voilà l'Atacama, contrefort des Andes chiliennes. Un désert plus sec et râpeux qu'une brique, où rien ne pousse hormis des champs de panneaux solaires. Ici, l'acteur principal est le vent, qui soulève poussière rouge, grise ou blanche et érode les montagnes. Le télescope géant, qui deviendra le plus imposant du monde quand l'Observatoire européen austral le mettra en service en 2028, sera le nouvel étendard de l'organisation dont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Angleterre assurent le 60% du budget et à laquelle sont associés l'Australie et le Chili. En moyenne, entre 160 et 220 personnes travaillent sur le chantier. Le télescope sera gigantesque et les instruments qui, installés de part et d'autre du miroir principal, réceptionneront la lumière, ne le seront pas moins afin de fournir des données de pointe aux astrophysiciens. Eleonora Sani, responsable adjointe des opérations scientifiques au Cerro Paranal, indique « Le plus grand télescope sera une révolution, ce sera époustouflant. Cela ne permettra pas de faire un pas en avant, mais un bond en avant. » Et Juan Carlos Muñoz, responsable des médias et ancien astronome, d'ajouter des découvertes auxquelles on ne s'attend pas.
Oui, et c'est pas parce que j'ai souligné là-bas qu'on reconnaît que c'est le ciel le plus pur pour regarder les étoiles. Mais ici, à RLP, peut-être on pourrait installer aussi pour regarder les étoiles. Musique de l'Amérique latine avec Béatrix. Mais nous allons parler d'un film qui vient de sortir. Alors
Les colons. Les colons, en 1901, trois hommes partent à l'extrême sud du Chili et de l'Argentine pour ouvrir une route vers l'Atlantique pour les troupeaux de moutons d'un gros propriétaire terrien, José Menéndez, et débarrasser ce territoire des Indiens qui y habitent. Le chef du groupe, un déserteur écossais, ainsi que son second, un mercenaire états-unien, aux côtés d'un métis natif des lieux, ont tout pouvoir pour déloger et assassiner les Indiens appelés Onas par les Blancs. Ce film puissant et désenchanté du cinéaste chilien Felipe Galvez, inspiré de faits réels, montre la duplicité des autorités de Santiago, désireuses de bâtir un jeune État construit en harmonie avec des colons provenant de tout pays, des Indiens et des descendants de conquérants espagnols. Dans le Nord, les civilisés font mine de condamner les excès des grands fermiers du Sud, accapareurs de terres et massacreurs d'indigènes. Il a fallu des décennies pour que l'histoire des perdants et des martyrs soit reconstituée. Felipe Galvez, le réalisateur, mélange des personnages fictifs et d'autres bien réels. José Menéndez a existé et la quasi-totalité des terres traversées dans le film appartiennent toujours à sa famille en 2023. Mais si les colons rétablissent une vérité historique, ils s'intéressent aussi à la façon dont le récit historique est construit. C'est sans doute comme cela qu'il faut voir sa scène finale.
Oui, ce film donc, que les colons viennent de sortir, nous avons reçu un coup de fil depuis Paris, de quelqu'un, un jeune homme qui a regardé ce film, et il a dit un peu la même chose qu'on peut constater dans les articles de Canal Enchaîné, positifs, des commentaires positifs, et aussi dans le journal du Sud-Ouest. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces films « Les colons » que vous pouvez aller les voir à Périgueux. Alors, notre première émission de cette année 2024 touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir des aspects de ce continent latino-américain que beaucoup de monde ne connaît pas, même pas moi. Mais merci à Béatrice qui nous a livré des informations sur ce continent latino-américain, j'insiste beaucoup. Et merci à Antoine, formidable, como d'habitude, a la technique. Muchas gracias, hasta pronto.